Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr pour votre rendez-vous hebdomadaire. Eh oui, le podcast de la rédaction de Gameblog. Aujourd'hui, émission 103, vous le savez, nous sommes au plein cœur de l'E3 en ce moment même. Et pourtant, vous entendez notre voix. C'est étrange, hein,
c'est la voix. C'est la magie de l'Internet.
Et celle de Raan. Pourtant, nous sommes effectivement en ce moment même à Los Angeles. C'est le miracle de la technologie, l'ubiquité magique. Pourquoi, comment, les coulisses de Gameblog dans un prochain podcast anniversaire peut-être. Vous comprendrez, c'est
les
merveilleux.
Coulisses du différé.
Oui, c'est une sorte d'idée. En tout cas, aujourd'hui, émission 103 qui va être dédiée forcément au bilan du mois de mai 2009, hein, comme d'hab, hein, le premier mercredi de chaque mois. On revient sur l'actualité qui a fait le buzz, qui a fait l'actualité chaude du mois précédent. Et puis, forcément, vous l'aurez compris, la semaine prochaine, lors de notre retour de l'E3, n'est-ce pas, Raan,
puisque
nous y sommes actuellement, un énorme bilan de l'E3 qui est en train de battre son plein, vous le voyez, hein, au quotidien sur Gameblog.fr. Allez, on va commencer sans plus tarder, alors que tout le monde est là dans le bocal, hein, comme on le dit désormais, de la rédaction de Gameblog avec Traz, Caf, Angel, Raan et moi-même. Bonjour et bienvenue sur Gameblog.fr, podcast 103. C'est parti. Allez, on commence avec le best-of du mois. Vous le savez, tous les samedis, nous vous demandons, hein, dans le best-of, d'élire votre news de la semaine, celle qui vous a le plus marqué. Et pendant le mois de mai 2009, eh bien, vous avez élu Duke Nukem Forever, définitivement mort, forcément, après quoi, plus de 12 ans d'attente, hein, c'est ça ?
Ouais. 12 ans de développement. Enfin, ceci dit, il n'est pas forcément Raan. Complètement mort.
Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ?
Ah, je relance une rumeur pour 12 ans d'avenir. Non, mais on ne sait jamais. Quelqu'un pourrait racheter les droits ou en faire un truc. 3D Realms officiellement n'est pas mort. Mm-hmm. Même s'il n'y a plus grand monde là-bas. Il doit y avoir Broussard et un autre type. Et puis c'est tout.
Mais qui Broussard, c'est qui Broussard ?
C'est le patron de
boss. Un des deux boss. D'accord. Enfin, l'autre s'est barré. Donc, okay.
Voilà, on ne sait jamais. Mais effectivement, toute l'équipe de développement a été virée.
Très bien. Bon, ça c'est très très mal parti. On sait aussi que les développeurs, on l'a déjà dit moult fois, hein, ont balancé des vidéos qui montraient un petit peu l'état d'avancement de Duke Nukem Forever. Il y avait des trucs qui étaient pas si mal.
Qui étaient pas mal, mais maintenant tout a été enlevé parce qu'il y a une histoire de procès dont on va parler tout à l'heure, je crois.
Exactement, je crois qu'il y a quelqu'un qui a un coup de gueule à jeter.
Et puis en plus, c'est un spécialiste des coups de gueule, donc il va faire ça très bien.
Il aime bien casser des portes ou des murs et enfoncer ses jambes et ses pieds. Enfin bon, on en parlera tout à l'heure. Effectivement, Duke Nukem Forever, sa mort, ça vous a fait énormément réagir, forcément. Autre news que vous avez lu dans les best-of du mois, c'est la première vidéo de gameplay de Beyond Good and Evil 2, le jeu de Michel Ancel. Forcément, alors, officiellement, on ne sait pas encore.
Oui, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est BGE 2 ?
Ça n'a pas encore été confirmé officiellement par Ubisoft, mais enfin bon, ça
laisse
quand même...
Ils n'ont ni affirmé ni confirmé
quoi que
ce soit.
C'est ça, ce qui veut dire généralement dans un langage marketing que c'est ça, hein. Angel. Trasom. Voilà, je suis fatigué. Je suis à l'autre
bout. Oui, forcément, avec le décalage horaire. Voilà.
Non, j'allais dire, ils font un petit peu du teasing à la Kojima, parce qu'on va aussi en parler.
Ah, ça, on va en parler. Oui.
Ça ressemble un peu à ça, parce que voilà, ils balancent le truc et ils commentent pas.
Mais je crois pas qu'ils aient balancé. Hein.
Ah bon, tu crois que c'est tombé du ciel,
hein.
Ouais,
c'est une vraie fuite officielle.
Ouais, mais enfin, Angel,
je pense pas. Dans ces cas-là, que ce soit anodin.
Dans ces cas-là, les éditeurs demandent à YouTube, Dailymotion et compagnie de retirer les vidéos. Là, comme par hasard, ça n'a pas été le cas. Red Steel 2, si vous regardez bien, là, ils ont vraiment demandé. Enfin, les vidéos ont été retirées. Pendant un moment, on ne les retrouvait plus. Là, Beyond Good and Evil, comme par hasard, elles sont restées là.
Caf.
Moi, je dis, vous allez bien être feinté, en fait, c'est Mirror Edge jeu.
C'est ça.
Et voilà.
Oui, parce que justement, on parle de cette vidéo, peut-être que certains ne l'ont pas vue encore, hein. C'est un mal, hein. Vous pouvez aller la chercher sur gameblog.fr. Mais pour ceux qui ne l'auraient pas vue, qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo ? Elle est très impressionnante, hein, techniquement, au niveau des animations, de la fluidité.
C'est super
du
beau.
Du style.
À supposer que ce soit du temps réel, c'est super beau. Ouais.
Voilà, ouais, parce que ça, on n'en sait rien non plus. Mais en gros, donc, c'est une nana qui court,
Jade, ouais.
C'est Jade, a priori.
L'héroïne du premier.
Qui s'enfuit avec plein de gens qui la coursent et qui fait. Du parcours façon Mirror Edge, qui saute sur des enseignes, qui se rattrape à des balcons.
Sauf que c'est de la troisième personne, évidemment, on la voit à l'écran, la différence majeure.
Et avec un finish justement qui ne peut faire autre chose que rappeler Mirror Edge, puisqu'elle saute d'un bâtiment pour récupérer un hélicoptère, comme à la fin du tout premier niveau, prologue de Mirror Edge. Ça rappelle aussi un peu Assassin's Creed, hein, puisqu'on sait que le moteur est partagé avec Assassin's Creed 2, aussi de chez Ubisoft.
Donc qui est un peu un bon moteur aussi.
Ouais, y a des effets dynamiques très, très impressionnants et une fluidité dans les animations et un naturel surtout.
Si c'est du temps réel,
c'est assez bluffant.
Ah, carrément.
A priori, c'est surtout une vidéo de travail. C'est sur ce vers quoi il vise à atteindre. Mais on l'a vu, hein, on l'imagine manette en main. Ça doit être très difficile quand même parce que ça va super vite, ça bouge tout le temps.
C'est monté cinématique là, de toute façon.
C'est un peu l'idée.
Donc on ne peut pas vraiment juger, mais en tout cas, en termes de marketing, ils ont assuré quoi.
Ou que quoi ?
Ou Cook Time Event.
Ou Cook Time Event. Mais Ancel a déclaré, il me semble, que de toute façon le gameplay allait vers la simplicité. Hein. Mm. Il cherchait à, enfin, à tendre vers
si
quelque chose
Quick
de.
Cook Time Event, mais je.
Non,
je
brûle
les locaux, les mecs.
Je pense pas que ce soit du Quick Time Event, mais par exemple, quand tu vois la façon dont t'escalades dans Assassin's Creed, où tu appuies juste sur un bouton et voilà, ça va être plus dans ce style-là, je pense.
Vous savez quoi, messieurs ? On va pas en faire deux heures là-dessus pour une simple et bonne raison. Peut-être que pendant que nous sommes en train d'en parler, nous avons déjà les réponses, car nous aurions peut-être déjà vu lors de l'E3.
Attendez, on va s'interroger nous-mêmes.
Voilà.
Et on en reparle la semaine prochaine.
C'est
allez,
un peu l'idée. Voilà, on a peut-être déjà commenté en fait sur la qualité de l'image, etc. Donc en tout cas, c'était pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Et si ne s'est rien passé à l'E3, parce qu'en fait, on ne sait pas, on enregistre avant, vous aurez compris, hein, il faut voir cette vidéo absolument. Autre chose qui risque d'être dévoilée à l'E3, qui l'est peut-être déjà, mais en tout cas, bon, si ce n'est pas le cas, c'est Projet Trico.
Ouais.
Le nouveau jeu de la team ICO de Fumito Iwata.
Ils auraient dû l'appeler Sanko comme Julo l'avait inventé, franchement.
Ah bah Trico, on comprend, hein. Tri, 3, ICO, machin.
J'espère que ça apparaît c'est Trico, parce que sans rire, j'espère qu'il y a un mec francophone qui leur a dit « Les gars, ne le faites pas !»
Enfin, vous savez, Nintendo, ça ne les a pas empêchés de faire « oui », qui veut dire quand même « pisser » pour des centaines de millions de personnes dans le monde. Hein.
Exact.
Voilà, en tout cas, pour ceux qui, une fois de plus, n'auraient pas vu la vidéo, et au cas où ils n'auraient pas une nouvelle vidéo depuis à l'E3, allez-y, c'est magnifique, cette espèce de créature chihuahua comme ça qui a une relation avec le
géant
de
12 mètres
c'est
de haut.
C'est ça, ouais. Ouais.
Angel ?
Non, moi j'aime beaucoup l'adaptation de l'histoire sans fin.
C'est vrai qu'il y a un vieux feeling. Mais en
Quand j'ai vu la vidéo, j'avais la bande son dans ma tête. Hein. Je suis désolé.
Il paraît que c'est en plus une vieille vidéo. Donc,
ouais, un an et demi.
Je n'ose pas imaginer où ils en sont maintenant. Quoi.
Il y a des passages chelous qui sont absolument magnifiques. Ça me rappelle aussi un petit peu Totoro dans la relation entre la créature et le petit garçon. Où, a priori, à l'Aiko, il devra avoir très peu d'échanges de mots, mais tout dans le regard, dans l'attitude, dans les animations qui sont quand même.
Et puis l'ambiance sonore, même au niveau des bruitages, puisque la musique est. C'est un placeholder, comme on dit, c'est-à-dire que c'est pas une musique qui était faite pour. Mais les bruitages, déjà, sont. Il y a toujours eu un travail du son chez Ueda.
Rien que le bruit du vent à chaque fois dans leur jeu et tout, ça défonce.
Ça a l'air vraiment exceptionnel. Et puis le nom Trico fait que, clairement, c'est dans la lignée, c'est vraiment dans la série des ICO, hein, plus encore que ne l'était Shadow of the Colossus, qui en révélait sa paternité, mais vraiment juste à la toute fin du jeu, pour ceux qui ne l'auraient pas encore complètement fait. Allez, dernière news que vous avez sélectionnée lors des best-of des samedis, hein, eh bien, le nouveau Metal Gear dévoilé, trois petits points avec ce teasing qui ne cesse de se répandre, hein, on va en parler tout à l'heure, pour certaines personnes c'est un coup de gueule, et pour d'autres c'est plus un coup de cœur, c'est amusant. En tout cas, ouais, première image Big Boss, on va pas énormément revenir dessus, hein. En ce moment à l'E3, on doit avoir toutes les réponses, hein. Mais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir que Kojima a du mal à lâcher sa série, en tout cas.
Ça fait même. Mais là, ça fait deux épisodes qu'il devrait avoir lâché.
Je pense surtout que chez Konami, on lui fait bien comprendre qu'il n'a pas le droit de lâcher, économiquement parlant, puisque
rapport
c'est 47% du chiffre d'affaires de Konami l'année dernière était généré par Metal Gear Solid 4. Donc non, faut pas. Traz.
Je pense qu'il fera du teasing jusqu'à sa mort, c'est ce qu'il disait.
Tu crois qu'il va teaser ses propres funérailles ?
Exactement. Il sera mort, mais en fait, il sera pas mort.
Voilà. Mais le plus tard
possible. Il est trop fort, ce mec.
Le plus tard possible. Allez, bah justement, on y arrive directement. L'homme du mois de mai 2009. Alors, comment dire ? Il n'y avait pas énormément de choix, puisqu'il y a eu, il y a eu des annonces de Yves Guillemot qui parlait d'Apple, qui allait peut-être s'intensifier, rentrer plus dans la course de la console, en tout cas du jeu vidéo. Il y a eu aussi Steven Spielberg qui parlait de la réalité virtuelle, qui allait revenir à l'image de la 3D au cinéma, qui est après des débuts dans les années 80, puis qui avait complètement disparu, revient aujourd'hui en force. Mais franchement, celui qu'on a collégialement élu pour l'ensemble de son œuvre pendant le mois de mai, j'ai envie de dire, c'est Hideo Kojima, la star du teasing absolu.
Avec Metamère. Hein.
Parce que alors là, c'est impressionnant.
Bah vas-y, hein, parce que là. Vas-y, parle-nous.
C'est quand même très intéressant sur plein de choses. Donc tout a commencé par un site internet très mystérieux.
Un orage, il n'y avait rien au début.
Au début, il n'y avait pas d'orage d'ailleurs. C'était juste des nuages un peu sombres. Un orage était en train d'arriver, voilà, tout à fait. Et puis alors, il y a eu plein de choses, hein, puisque donc il y a eu un premier décompte qui n'a fait que révéler un second décompte, et puis on le sait aujourd'hui, il y avait 4 décomptes qui allaient aboutir au 1er juin, date de conférence de la conférence Microsoft. Mais ce qui est très intéressant quand même, c'est qu'il y a eu aussi un moment, on sait que Kojima est très pointilleux, aime bien les détails, le diable se cache toujours dans les détails, et alors justement, énorme erreur de la part du staff, on va dire, de designers, qui ont juste repiqué le layout d'un autre site internet, celui de Greenhouse, avec les films de Tarantino et Rodriguez. Alors au début, tous les fans se sont emballés parce que ça fait le tour d'internet tout de suite en disant oh, un rapprochement Kojima, Tarantino, ça va être énorme, etc. Non, C'était juste qu'ils avaient oublié d'effacer à la fin le calque sur lequel ils travaillaient. Une terrible erreur quand même. Konami qui a été obligé de s'excuser à demi-mot. Enfin bon, ça la fout mal hein, quand même.
Bah oui, quand t'as une trace genre avec un petit logo qui reste, avec marqué Dimension Films et tout.
Avril 2007.
Bon, voilà, des dates, des trucs. Forcément, t'as toute une ribambelle de couillons, nous les premiers.
Ouais. Ils disent, ah, ça va faire ça, tu vas voir,
et tout, c'est ça. Et puis bah non, c'est juste un graphiste quelque part qui a oublié de virer son truc. Quoi.
En tout cas, oui, donc c'est quand même surréaliste, mais à la fois ça permet de se rendre compte à quel point l'engouement est mondial autour des productions Kojima quand même, parce que ça s'est enflammé partout.
Mais
partout,
c'est pour ça que c'est l'homme du mois, c'est que c'est le champion du teasing, quoi. Je veux dire, qui sait faire ça mieux que lui?
Ah, Kaf, hein, peut-être la réponse, attention.
T'imagines qu'il l'ait fait exprès?
De quoi?
De pas virer le logo, juste pour foutre la merde.
Moi, je pense que surtout, hormis le logo, il y en a un autre qui a été viré. Ouais, chez Kojima Production. Mais je pense que ça a pas dû traîner.
Là, il serait supra fort, quoi. Parce que les hoaxes et les trucs, les fausses erreurs et tout en marketing, ouais, ça se fait de plus en plus. C'est proposé, validé par les mecs.
Enfin,
et tout,
si t'as, si t'as un procès derrière à base de centaines de milliers de dollars.
C'est
pas
peut-être qu'ils sont potes. Hey, je vais peut-être faire un truc avec le logo de ta boîte, ça te dérange pas?
C'est vrai qu'on n'a pas eu d'autres informations. Dimension n'a pas communiqué dessus. Troublemaker non plus.
Les mecs, ils ont fait quoi? C'est les mecs qui font du jeu vidéo. Qui est super. Ils s'en foutent, quoi.
Mais enfin, en tout cas, on a appris quand même pas mal d'autres choses. Hein. On a vu sur le béret de Big Boss, hein, militaire sans frontières, en français dans le texte. Ça rappellerait le projet Les Enfants Terribles, dont on parlait dans le premier Metal Gear. Les Enfants Terribles. voilà. Et puis, autre chose qui était très intéressant, c'est Kojima lui-même l'a dit dans une interview à Famitsu, de bien regarder ce logo avec cette tête de mort, ce crâne et ces espèces de, je sais pas, d'os qui sont en train de partir en vrille. Et c'est vrai qu'on a bien regardé et qu'on a remarqué que ça rappelait la forme de la Pangée, ce moment en fait où la Terre, encore tous les continents étaient amassés, Angel, c'est assez intéressant.
Oui, bah, alors donc la Pangée, c'est la planète telle qu'elle était avant la dérive des continents, c'est-à-dire quand tous les continents ne formaient qu'un ou presque.
C'était l'instant culture de Gameblog.
Exactement, alors que dire d'autre?
Que ça va
se passer autour du temps des dinosaures, je ne pense pas.
Ouais, il y aura des dinosaures. Et pas que les dinosaures avaient des plumes, sinon ça t'intéresse ou pas? Non.
Tous? Non.
Bah, en tout cas, ce qui sera intéressant, c'est que nous enregistrons à quelques heures avant notre décollage à l'E3, que probablement aujourd'hui, l'heure à laquelle nous parlons, on sait un peu plus de choses. Mais ce sera intéressant de voir que nous, ce qu'on imagine en tout cas sur ce Metal Gear, à quelques heures avant de vraiment savoir, c'est probablement un épisode qui regroupe une sorte de spin-off qui regrouperait les meilleurs, enfin les moments sombres du jeu qu'on ne connaît pas encore. Qu'est-ce qui s'est passé pour Raiden? Voilà, de toute la série. Qu'est-ce qui s'est passé pour Raiden entre MGS2 et MGS4?
Il y a
un grand
zone.
Voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour Snake dans MGS2 au moment où on ne le joue pas et qu'est-ce qu'il faisait? Des moments, la vie sur Big Boss entre Zanzibar, etc. Pourquoi il est revenu alors qu'on l'avait tué dans le premier Metal Gear tout court, pas solide encore. Enfin, énormément de choses. Hein.
Oui, bah oui, c'est une théorie toute bête, hein, c'est que déjà ce serait intéressant à jouer, ça permet de naviguer partout dans la série et à lui et à Kojima lui-même de boucher les trous qu'il a encore sans doute envie encore de raconter. Mm-hmm. Et puis parce que dans ce fameux teasing, il y a Big Boss et Raiden moderne, une cinquantaine d'années qui les séparent tous les deux. Donc si les deux personnages sont là, ça veut bien dire qu'a priori...
Et un Raiden dans son accoutrement qui n'est pas le Raiden qu'on connaît à la fin d'MGS4. Donc,
pas tout à fait, donc même ça, peut-être encore un autre...
Ça serait difficile que ce soit une suite en tout cas.
Vous imaginez que ça se trouve, on va se faire vanner sur les forums, mais comme jamais là. Mais
justement, alors on leur donne du grain à moudre.
Ça se trouve,
on vous fait plaisir là. Hein,
MGS et Messic sur XBLA.
Exactement, on ne sait pas
du
tout.
Et c'est juste des visuels quoi, c'est tout.
Voilà, c'était pour rire les gars.
C'était notre contribution au grand teasing de Hideo Kojima qui est, à nos yeux, clairement l'homme du mois. Tu veux conclure?
Ouais, non, je voulais juste soulever un truc, c'est que la fameuse date du teasing, si c'est la conf Microsoft, c'est quand même intéressant de se demander si ça sera sur de la Xbox ou pas.
Au moment où nous sommes en train de le dire, et ça vend déjà.
Et si c'était, alors attention, et si c'était tout simplement justement pour faire la nique à Microsoft, tu vois, une exclue, c'est-à-dire une grosse annonce Metal Gear le jour de la conférence Microsoft, c'est
sur
PS3, c'est juste de l'attention, c'est-à-dire je pense que Sony serait très content qu'il y ait une grosse annonce Metal Gear.
Ce qui est étonnant dans cette histoire, c'est ça, c'est que la conférence Konami, elle est le lendemain, le 2, et que la conférence Sony est aussi le lendemain, le 2.
C'est-à-dire hier.
Ce serait bizarre. Oui, c'est ça. Non, mais ce serait bizarre qu'ils communiquent sur un truc alors qu'ils ont leur propre conférence après, je sais pas. Enfin bon, on verra, et puis on sait déjà, de toute manière, donc on va pas faire 4 heures là-dessus. Allez, on va passer au traditionnel coup de cœur, coup de gueule, avant de revenir sur les news qui ont fait l'actualité du mois de mai en particulier. On parlera de la PS3 Slim and Light, bien sûr, de GTA, The Ballad of Gethony, de Bioshock 2, Heavy Rain, Xbox Fluid, Gears of War 3, enfin il y a eu beaucoup de choses. Mais en attendant, les coups de cœur, on va commencer avec quelqu'un qui a un cœur qui bat tout fort en ce moment. évidemment, pendant l'E3, puisqu'il se lève très tôt le matin pour uploader nos vidéos qui viennent de Los Angeles. il s'agit de Traz. Et Traz, toi, ce que tu as retenu vraiment au mois de mai, et ça va faire plaisir à beaucoup, c'est entre autres, c'est deux choses. C'est GT5, mais on en parlera dans quelques secondes, mais c'est aussi le podcast 100 avec toute la communauté.
Oui, tout à fait. Moi, ça m'a fait plaisir de voir plein de gens que je ne connaissais pas, à part via leur pseudo. Je sais que vous les avez déjà vus avant, etc. Ouais.
On t'a libéré pour l'occasion, donc c'était ta première fois, ta toute
donc,
première
fois. Donc le podcast 100, c'était l'occasion de voir tout le monde, Lush Life, numéro 6, War Caribou, tous les autres. Quoi. Voilà, je ne
fais aucune remarque sur les mains de Lush Life.
Exactement, à part maintenant.
Oui, mais, c'est vrai.
Il paraît que ça va.
J'aime beaucoup Lush Life.
Et donc, ouais, c'était super sympa et vraiment une bonne ambiance. Ça s'est très bien passé. Et ils étaient tous contents d'être là, puis nous, on était contents d'être là aussi. Donc,
Et puis voilà, au mois de mai, le podcast 100, c'était quand même vraiment un gros événement pour nous. Et ça nous a vraiment fait vraiment plaisir de voir à quel point vous avez été nombreux au rendez-vous physiquement lors du podcast, mais aussi surtout vous, avec tous les commentaires que vous avez faits. Ça nous a beaucoup touchés. Et c'est vraiment aussi ça, Gameblog, à nos yeux, c'est faire quelque chose qui va au-delà du simple jeu vidéo. Le jeu vidéo autrement, le autrement, il se loge aussi là-dedans. La relation qu'on peut avoir avec vous et que vous avez avec nous, et ce qui fait que Gameblog est un site un petit peu différent.
J'étais juste déçu par leur physique, je les ai tous trouvés globalement très laids. Mais bon. Mais bon, on peut pas être parfait non plus. Hein.
Comme tes cheveux, Angel.
Un peu.
Voilà,
un peu.
Je ne veux pas. Regardez la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas vue encore. La vidéo du podcast 100. Autre coup de cœur pour toi, Traz, Gran Turismo 5 avec les ébauches de dégâts, de pluie qui étaient annoncées.
Apparemment. Il y aurait enfin des dégâts sur les voitures.
Alors là,
Gran Turismo
5. Vous avez entendu le silence des énormes pincettes de Traz.
Oui, parce qu'en fait, il y a eu tellement de choses de dites sur ce jeu-là que on ne sait plus trop bien par quelle boule prendre. Donc, jusqu'à présent, on était super soft là-dessus. Donc, là, on espère que ce sera enfin vrai. Donc, des dégâts, des courses de nuit, la pluie. S'il y a tout ça, c'est super royal. Donc, en espérant qu'effectivement, le temps qui passe là-dessus.
Mais ça, en 2012, ça sera pour ça. En 2012, 2013, tu sais, il va être bien le jeu. Hein.
Voilà, exactement.
On va pas être trop long là-dessus parce qu'une fois de plus, c'est un peu horrible sur ce podcast, c'est que ça se trouve, on le sait déjà.
Ou pas.
Voilà, mais en tout cas, GT5, effectivement, clairement. Et puis, on l'a vu aussi hein, dans les news les plus cliquées. GT5, vous cliquez beaucoup. Du coup, Gran Turismo, c'est pas une série qui s'est endormie, en tout cas, pas dans votre cœur, clairement, pas dans l'attente des joueurs. C'est très, très, très attendu. Autre coup de cœur de la part de Raon. C'était le trailer de Tricot. Hein. On va pas revenir
dessus. Voilà, mais moi, là, ça m'a, en quelques images, ça m'a scotché.
Clairement. Pour toi, CAF, c'était. C'est pas là une bande-annonce. Hein. C'est un petit extrait, 5 minutes, que vous avez pu découvrir sur Gameblog, sur Uncharted 2. Et effectivement, super impressionnant.
Ouais, on en a un peu parlé déjà. Et moi, ça m'a bluffé parce que je suis un gros fan du 1. Que le 2 excellent a l'air vraiment super beau. Que c'est un jeu mésestimé par plein de gens parce que c'est pas une grosse licence. Les gens n'ont pas forcément
le
PS3.
Vraiment, ça va le devenir.
Non, mais ça monte. Mais enfin, il faut. Moi, j'ai vraiment.
C'est comme
envie
Bioshock,
de pousser,
en fait.
Quoi. Ouais. Mais Bioshock, c'est rigolo. J'ai l'impression que ça a pris vachement plus vite, en fait.
On va pas en termes de vente.
Exact. Ouais.
Mais c'est exact. Vrai qu'en termes de couverture médiatique, on en a plus parlé. Hein.
Uncharted est sorti tellement tôt, en fait, avec la PS3, qu'il y a pas mal de gens qui l'ont un petit peu regardé comme ça de travers. Et là, le 2 a l'air vraiment super beau. Moi, j'adore le héros qui me fait marrer. L'ambiance est super. Pince sans rire.
Oui.
Pour moi, c'est du Indiana Jones. Il est tout fatigué, c'est pas grave. Excusez-le.
Je te dis, le décalage horaire, ça nous.
Il se prépare. Et non, c'est, pour moi, c'est tout ce qu'aurait dû être un film d'aventure, mais dans un jeu vidéo. Enfin, c'est l'alliance parfaite. J'avais kiffé dans le premier les making-of en vidéo que tu débloquais des trucs utiles. J'espère que dans le 2, ils ont gardé tout ça. Quoi.
Moi, j'ai hâte. Oui, on le sait déjà d'ailleurs.
Ah merde, c'est vrai.
On est à l'E3, donc on le sait déjà.
Ah, mais oui, merde, pardon.
Angel, toi, ton coup de cœur, c'était pour un jeu que tu affectionnes particulièrement. Depuis 3 semaines, tu en parles d'ailleurs très souvent. Il s'agit de Monkey Island.
Je suis en train de faire mon julot.
Oui, c'est ça, tu es en train de créer.
Et ça m'inquiète.
Donc, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi coup de cœur, mais Monkey Island?
Alors, Monkey Island, apparemment, va sortir sur le Xbox Live Arcade. Et ça me rend très heureux. Pas parce que je pense pas le refaire.
C'est le tout premier Monkey Island, c'est ça?
Oui. Apparemment, oui, c'est le premier. En tout cas, il est listé comme ça. Alors, après,
c'est un truc qui est sorti sur les organismes de classification, c'est ça?
Ouais, exactement. Alors après, peut-être
que
c'est.
On ne sait pas s'il est refait.
On sait qu'il est listé comme édition spéciale. Alors, si ça se trouve, c'est une compile des.
Je veux dire, Monkey Island.
Des deux ou trois premiers, va savoir.
Ready to R.
Mais s'il le refaisait en HD, toi, tu le rejouerais pas, du coup?
Je pense pas, parce que l'intérêt du jeu, c'était pas trop les graphismes. C'était comme on avait déjà dit la dernière fois, les dialogues et tout ça. Donc, mais moi, ce qui me rend heureux, c'est surtout. Donc, il y a. Il y a toute une génération de joueurs qui va pouvoir découvrir la surpuissance de Monkey Island. Et moi, comme je pense aux générations futures, je suis très content pour eux.
Non.
Voilà. J'imagine déjà le trailer.
For a new generation to discover.
Voilà, après, moi, j'ai des doutes à titre personnel. J'ai des doutes sur l'interface parce que c'est un jeu qui se jouait à la souris. Avec le fameux système du SCUM, je demande comment on peut l'adapter.
Ouais, ils l'ont adapté sur iPhone, mec.
Sur le paddle, mais bon, bah après tout, enfin, c'est pas non plus.
Le plus simple, ce sera au stick analogique pour déplacer un curseur.
C'est pas non plus rédhibitoire. C'est pas pratique, mais c'est pas rédhibitoire.
Donc, on verra bien.
Je suis très content.
On verra bien. Et effectivement, à force d'en parler, moi, c'est vrai que c'est un jeu que je n'avais pas joué. Hein. J'étais trop jeune, puis j'avais pas de PC à ce moment-là. J'avais un Mac. Et j'y jouerais bien, tiens, s'il ressort. Parce que pour voir un petit peu, découvrir un petit peu un jeu d'aventure à l'ancienne avec des bonnes blagues à l'intérieur. Moi, mon coup de cœur, ça aurait pu être un peu comme Raon, Tricot, forcément, fan des productions Fumito Ueda. Beyond Good and Evil, pareil, c'est énorme, j'adore, je veux le voir. Mais donc, pour faire un peu différent.
En fait, on a inversé finalement, j'ai l'impression presque.
Pour faire un peu différent, je parlerai moi de la bande-annonce de Modern Warfare 2, moi qui aime plutôt les expériences généralement un peu plus peace. Mm. Bah, Modern Warfare, c'est le premier FPS très guerrier qui m'a scotché, mais vraiment littéralement scotché, j'avais adoré. Et c'est vrai que Modern Warfare 2 s'annonce juste énorme. Il y a des séquences avec l'espèce de filin là, pris par l'hélicoptère.
Quand t'es élitreillé en dehors de l'immeuble.
Ça a l'air de tuer, sérieux, dans tous les sens du terme. C'est super beau. Enfin, voilà, là,
La motoneige aussi, ça a l'air sympa.
Ah ouais, non, ça a l'air assez varié.
Il y a des séquences qui ont l'air bien anxiogènes avec les mecs qui se font shooter et tout. Ça a l'air bien violent.
Je suis pas super fan de la guerre, mais Modern Warfare, par contre.
Ça va te changer de flower là. Il faut que tu te remettes là.
C'est vrai. Ça m'attire clairement et j'ai trouvé ça super impressionnant.
Faut que tu récupères des poils, mec.
Vraiment. Voilà. Et puis, alors, Julo, vous l'aurez compris, n'est pas là parmi nous dans le bocal de Gameblog ce soir, mais pourtant il a pensé à nous et il nous a fait une petite sélection coup de cœur du mois de mai. Julo, notre petit bisounours à nous. Et donc lui, il souligne que Shenmue, effectivement, il y a eu un sondage dans le magazine japonais Famitsu qui demandait aux lecteurs quelles étaient les suites les plus attendues, celles qui, peut-être même, d'ailleurs, on en parlait la semaine dernière avec le podcast Les Sagas Oubliées. Si vous vouliez voir une suite, lesquelles vous attendriez le plus, et ben en deuxième position apparaît Shenmue, preuve qui n'a pas été oubliée par les joueurs japonais. Et on sait pas, on sait jamais. Au bout d'un moment, Sega va peut-être se dire quand même que vu toute l'attente,
ils vont le faire, ça va durer 8 ans, ils vont perdre toute leur thune et ils vont enfin fermer. Ça va être horrible.
Moi, je peux poser une question qui n'a rien à voir, mais.
C'était qui le premier ?
Exactement.
J'ai bien pensé, mais je suis sûr qu'il ne le sait pas.
Qui était le premier ? Et
téléphoner à Julo au 36-28. Voilà. 22-22. Et puis 22-22.
Tu vois, moi j'étais sympa, je lui ai pas demandé. Je savais qu'il allait.
Je savais que la question allait arriver et c'est horrible. Parce qu'en plus, putain, j'ai relu tous les trucs et celle-là, je l'ai pas lu. Parce que Shenmue, j'ai vu Shenmue, j'ai fait ok, c'est super.
C'est Julo.
Non, c'est pas. Non, c'est. Mais c'était un jeu Square. Mais bon, je ne sais plus. On retrouvera peut-être d'ici la fin du podcast.
Ah, on vous dira Quest, ça. On vous dira.
Exactement. Allez, coup de gueule. On passe au coup de gueule. Ah, ça c'est mal. Ça c'est mal. Ça, genre, on n'est pas content. Et on va d'ailleurs commencer avec Angel. Comme ça, on va vite régler le compte d'Hideo Kojima. On l'a encensé depuis tout à l'heure. Marre du teasing, Angel. Rapidement là-dessus.
Bah, c'est notre ami
Angel.
Vas-y.
Ouais, marre du teasing parce que ça commence à bien faire.
Ça, c'est de la faute à Kojima.
Non, mais sans déconner. Ouais, non, mais voilà. Alors, Kojima, c'était le.
Kojima à l'envers qui veut dire magico.
Merci. Kojima, ça a été la fin. Ça a été le truc, la goutte qui a fait déborder le vase, quoi. J'en peux plus. C'est-à-dire, Kojima, il a fait du teasing, de teasing, de teasing, de teasing.
Bah justement, ça a jamais été fait.
Non, mais sans déconner, quoi. Ça, au bout d'un moment, ça devient insupportable. C'est comme.
Moi, je trouve qu'il est très jeu vidéo.
Tu vois, et puis tout le monde commence à le faire, mais d'une manière absurde. D'une manière absurde, c'est-à-dire sur Assassin's Creed, là tu vas voir, je le vois arriver gros comme une maison, ça va être pareil. Mais moi je me souviens, Sega qui le fait sur. Vous vous souvenez du Project Ringo ?
Ah oui.
Donc le Project Ringo, c'était du super teasing, exact. Pareil, du teasing de teasing pour un putain de Puyo.
Ouais. Donc, mais c'est mortel.
Non, mais d'accord, mais
essayer de dire du mal.
Je suis d'accord, mais là il fait quand même du teasing pour un truc qui a l'air un peu plus gros, qui intéresse quand même des millions de personnes. Metal Gear, ça,
ouais, mais même. Ok. Alors c'est comme si Spielberg faisait du teasing, disait.
Mais on est.
Je vais faire un film.
Ouais,
je vais faire un film, mais je vous en dirai plus dans deux semaines.
Et deux semaines après. Excuse-moi. Mais c'est quand même. C'est Hollywood qui a créé les teasers.
J'ai pas fini. Ouais, non, mais d'accord.
Teaser, si c'est pas du teaser.
Non, mais attends. C'est mon coup de gueule. Tu verras. Donc je vais finir. Donc c'est comme si Spielberg disait, je veux faire un film. Les gars, et je vous en dirai plus d'ici la semaine prochaine.
Alors, est-ce que tu te rappelles de Transformers produit par Spielberg?
Est-ce que je peux finir, s'il te plaît?
Oui.
Et donc, la semaine suivante, il dirait les gars, en fait, je vais faire un film d'action. et la semaine d'après, il dirait je vais faire un film d'action avec
Tom Cruise. Etc. etc. Et au bout de deux mois, le mec, il dit bon, alors ok, je fais la guerre des mondes. Voilà, vous êtes content? Tu vois, bon, et en plus,
je comprends, je veux dire
tout ça pour un Metal Gear, quoi.
Mais je comprends déjà, bien, mec, mais à la fois, on parle de jeu vidéo. Et le jeu vidéo, c'est aussi ça. C'est aussi s'amuser, c'est être un peu espiègle, etc. Moi, je trouve que c'est l'un des rares, si ce n'est le seul, créateur qui, justement, ose d'autres choses. Parce qu'il a aussi un nom, parce qu'il peut le permettre. Mais ça marche, et vu le nombre de personnes qui réagissent, c'est que ça, visiblement, ça attire quand même du monde. On n'est pas obligé de cliquer.
C'est ce que j'allais dire, parce que tu dis que si Spielberg faisait un teasing pareil, mais ça marcherait forcément. Parce que c'est Spielberg. Kojima, il fait la même chose dans le jeu vidéo. Bah, ça marche parce que c'est Kojima.
De toute façon, on n'est pas là pour parler de Kojima en particulier. C'est-à-dire, c'est tout le teasing, toute la politique.
En même temps, il n'y a que lui qui fait ça.
Messieurs, la parole est à Raon sur ma droite.
Ce gros porc.
Ouais, il y a deux sortes de teasing pour moi. Il y a le teasing où on te laisse suffisamment d'indices pour que tu puisses progresser et que ce soit ludique, ce qui est le cas en l'occurrence de ceux de Kojima en général. Et puis, il y a les teasing de merde où on ne te dit rien et tu ne peux pas progresser ou deviner toi-même. Il n'y a pas d'aspect devinette, quoi.
Moi, juste pour vraiment du vécu, hein, avec Raon, on est au bureau tard le soir. Hein, c'est un peu ça. Assez tard le soir. Et c'est vrai que toute cette semaine, on a suivi tout le teasing et on a imaginé des choses, on a regardé, on a scruté l'écran et il y a vraiment eu des moments où on s'est regardé sans rien dire avec grand sourire en disant putain, je crois que j'ai trouvé un truc.
Et après, on s'est roulé des palos.
Voilà, quand on a vu la Pangée, on a réfléchi comment ça peut marcher, etc. Enfin, et puis il pousse à réfléchir vraiment et à s'instruire aussi. La Pangée, je pense que beaucoup de personnes ne la connaissaient pas. Et grâce à Kojima, ça revient.
Alors d'accord, très bien, mais quand le premier teasing est apparu, alors ouais, l'orage, est-ce que c'est machin Storm truc, parce que ça veut pas être un Metal Gear. Finalement, on voit le 5, et là, ouais, mais le 5, ce serait trop facile. Et en fait, si, c'est un putain de Metal Gear. Super, quoi. Tu vois, tout ça pour ça.
Et ça se trouve, ça va être juste un portage sur Xbox.
Le pire, par exemple, reprenons un ancien teasing de Kojima, c'est celui sur iPhone.
Oui, oh là là.
Alors celui-là, il était bien parti aussi, tu vois, avec du verre, etc. Ouais. Bah alors là, celui-là, je l'ai pas aimé, par contre. Parce que curieusement, la fin, je l'ai trouvé pourri.
Donc ça se trouve, tu n'aimes pas le teasing de Kojima, parce que là, actuellement, tu ne sais pas à la fin. Non,
le problème du teasing, c'est la déception. Ça peut être hyper déceptif, et là, tu te mets les gens.
Mais mon moi dans deux jours, le sait, par contre.
C'est ça.
C'est-à-dire mon moi d'hier.
Ça devient un podcast très lost.
C'est ça.
C'est ça. Bon, on va faire un flash forward en avant, en arrière, et c'est reparti. Bon, on a compris, effectivement, le teasing, bon, il est un peu lourdingue, il faut bien l'avouer, mais à la fois je le trouve assez rigolo, puis ça fait du bien de teaser de manière.
Alors, et j'insiste, c'est le teasing en général, pas uniquement celui de Kojima. Celui de Kojima, c'est la goutte qui a fait déborder le vase, mais sinon, c'est une pratique qui devient de plus en plus récurrente dans le jeu vidéo et qui a tendance à me saouler grave.
Mais à la fois, on peut passer à côté quand même.
Ah oui,
et en plus,
je le fais.
Nous, on y participe aussi, parce que quand nous, on va faire une news sur le teaser du teaser d'un truc, enfin, tu vois, c'est.
Alors,
on en est même pas au trailer, on en est au teaser du trailer.
Quand même, les chiffres que vous ne connaissez pas, que nous voyons derrière, comment ça clique, etc. Alors, la semaine dernière, c'est une montagne de clics pour toutes les teasings de Kojima. Ça marche du tonnerre de Dieu.
C'est Kojima, du tonnerre de Dieu.
Bah ouais. Mais ça intéresse énormément de personnes. Et nous vous l'avions promis. Oui, le moment d'importance. Nous vous l'avions promis. Qui était le jeu? On va se reconnecter avec le coup de cœur tout à l'heure de Famitsu, de Julo. On disait les jeux, les suites les plus attendues, etc. Donc en deuxième position, il y avait Shenmue. Eh bien, nous tenons nos promesses grâce à un SMS envoyé de on ne sait pas où de Julo.
En Europe, quelque part.
Le jeu le plus attendu des lecteurs de Famitsu au Japon, c'est une suite de Sakura Taizen. Donc un jeu qui n'est jamais sorti en Europe, mais qui est une très bonne série néanmoins de RPG typiquement japonais. D'ailleurs, Greg, Silver Muscotaire, avait participé à l'épisode qui se passait à Paris.
Et le troisième, parce qu'il y a eu un deuxième texto dans la foulée, la troisième suite la plus attendue, c'est Okami.
Très bien. Ah, ça fera plaisir à certains.
Merci Julien Hubert.
Exact.
Pour sa
bon, allez, on enchaîne. C'est l'électeur de Famitsu, c'est pas tous les japonais.
C'est un peu l'idée. Allez, on enchaîne avec de nouveaux coups de gueule. Raon, justement, puisque t'as la parole. Toi, ton coup de gueule, il est adressé à Fallout 3, mais pas vraiment le jeu, mais plus que ce qui est en train de se passer en ce moment.
Bah, c'est Bethesda qui me casse les bons moments, en fait. Parce que leur politique de DLC, elle est un peu miteuse, en fait.
Bon, bah, tu sais, depuis le cheval avec armure. Hein.
C'est ça. Alors, on avait un espoir que ça s'améliore, mais bon, il y a eu. Bon, déjà, The Pit, c'est sorti ultra buggé, c'est une catastrophe.
C'est l'extension de
Fallout 3, c'est la deuxième. La première, Opération Courage, est une grosse merde. Et ils nous ont fait après, tout récemment, donc là, il y a une semaine et demie, deux semaines, pour nous. Oui, on sait pas si on va faire d'autres extensions, faut voir si ça marche bien. Trois jours après cette déclaration.
Non.
Si, je te jure, trois jours après.
Ils ont
le mec, il balance.
Ils ont osé.
Il balance deux nouvelles extensions.
dont la première sortira fin juin.
Ah oui, d'accord.
Bon, ça va bien 5 minutes, les gars, mais là, c'est pas, c'est, là, pour le coup, c'est même pas une question de teasing ou de machin. C'est une question qu'on te prend vraiment pour un con, quoi. Et bon, comme si les extensions étaient géniales, encore, hein, je dis pas, mais bon, là, pour l'instant, c'est un peu du massacre de licence.
Et si elle marchait, surtout. Parce que la troisième extension PC était
ultra
rare aussi.
Ultra buggé.
Allez, Caf, on passe à toi avec ton coup de gueule. Et alors, toi, ça concerne le loot dans les jeux non MMO. Alors, qu'est-ce que
alors,
c'est que le loot?
Dit, c'est le putain.
Non,
le
j'aime
putain.
Bien dire loot parce qu'à chaque fois, après, il vient me voir et il fait c'est quoi déjà le loot?
Je suis obligé de faire le petit candide à chaque fois pour que tout le monde
mais,
comprenne.
Ouais, en fait, c'est lié au dernier patch de Team Fortress 2 dont je parlais la semaine dernière. Qui finalement.
Patch mise à jour.
Voilà,
mise à jour.
Qui... Non, mais non, je veux la faire sans la loi tout bon.
D'accord.
et ils ont un vrai problème dans la mesure que les gens pensaient que ça serait bien mieux que les anciennes façons de récupérer de nouvelles armes, et en fait c'est dramatique. Alors j'explique vite fait. Avant, qu'est-ce qui se passait dans Team Fortress 2? Il y avait une update sur une classe, cette classe bénéficiait de deux nouvelles armes par exemple, mais pour les avoir il fallait faire des succès avec justement les classes concernées. Donc du coup, je sais pas, tu sortais une nouvelle arme pour le médic et tout le monde jouait médic, donc sur les serveurs c'était génial, t'avais plus que ça, et les mecs faisaient, ils cherchaient pas à gagner en fait,
ils cherchaient à débloquer l'arme.
Voilà, ils cherchaient juste à débloquer l'arme. Alors des fois les achievements pour les avoir c'était complètement débile, donc voilà. Et là du coup ils se sont dit on va arranger ça et tout, on va faire des drops comme dans les MMO.
Ouais. Et donc des butins qui tombent sur des cadavres.
Voilà. Et en fait c'est aléatoire, ça ne correspond à rien. Il y a des mecs qui jouent 10 heures. Normalement il y a un algorithme qui est censé lisser tout ça.
Ouais, c'est le principe du drop. Hein.
Voilà. Et en fait là c'est vraiment mal foutu parce qu'en fait même Valve a dit oui effectivement notre algorithme est super buggé. Donc il y a des mecs qui jouent 3 heures, ils arrivent, ils ont toutes les armes. Il y a des mecs qui jouent 24 heures, ils laissent tourner et tout machin, ils ont rien. Donc ça les énerve un petit peu. Et après donc par extension, et j'ai vu que sur les forums ça répondait dans la même direction, c'est qu'effectivement on se retrouve avec des jeux qui ne sont pas donc des MMO, qui ne sont pas des RPG, etc., donc dans les FPS en particulier, avec ce système de blocage d'armes qui t'oblige à jouer de plus en plus. Donc Call of Duty 4 l'avait amené, mais on l'avait déjà vu avant. C'est un truc qui était arrivé
pas
déjà.
C'est tout à fait pareil quand même. Hein.
Non, mais c'est par exemple, pour citer un, c'est pas du drop, mais c'est la mécanique est la même. Ouais, c'est pour c'est t'obliger cool. à jouer.
Exactement,
en fait.
On te fait débloquer le contenu voilà. du jeu.
Avec, c'est la carotte numérique.
Bah, voilà,
exactement, et avec Counter-Strike, en fait, tu gagnais de l'argent suffisamment vite en deux rounds, tu t'achetais l'arme que tu voulais, puis tu t'amusais avec tout le monde.
Ça faisait partie vraiment du gameplay. Voilà, chaque nouvelle partie, tu le refaisais.
Et depuis justement, bon, Call of Duty 4 l'a fait de manière vachement plus linéaire, donc t'es moins handicapé quand t'as pas les dernières armes.
Puis c'est surtout que tu sais où est-ce que tu vas. Tu sais combien ce qu'il faut que tu fasses pour avoir tel truc et tel truc.
Bah, faut jouer hein, globalement, donc ça c'est simple. Ouais. Mais par exemple, là, dramatiquement, celui que je trouve le moins bien foutu là-dessus, ça va être un Killzone 2 qui se tire une balle dans le pied tout de suite, tout seul, pardon, parce que justement, tu as plein de classes de personnages, tu peux jouer. Tu peux créer tes classes en fonction des armes que tu as débloquées, tu peux faire un médic, etc. Mais ça oblige à jouer énormément pour avoir tous ces trucs-là, ce qui est complètement con, parce que s'il l'avait ouvert dès le départ, à la limite, il y aurait peut-être même plus de gens qui joueraient au multi.
Pour conclure, Angel, tu voulais ajouter quelque chose?
Non, c'était exactement en fait ce qu'il a précisé après.
Voilà. D'accord, bon, très bien.
Je n'ai absolument plus rien à dire.
Désolé. D'accord. Eh bien, écoutez, on va passer au dernier coup de gueule. Le mien, il concerne Resident Evil 5, le pauvre. Mais ça n'a rien à voir. Non, mais ça n'a rien à voir avec Resident Evil 5. Hein. Après, on n'aime pas. Hein. Chacun, c'est très subjectif, tout ça. Mais néanmoins, donc Resident Evil 5 fait un véritable carton. Hein. Déjà 5 millions d'exemplaires vendus dans le monde, tant mieux pour lui. Le seul problème, c'est que je pense que. Et globalement on le voit par rapport au retour, c'est qu'il est diversement apprécié, mais majoritairement beaucoup de gens sont très frustrés par cette prise en main qui est quand même datée, très datée, et ça en a vraiment déçu beaucoup qui avaient lâché un peu la série avec le 4 qui était extraordinaire mais qui ne l'avaient pas pris parce que les précédents les avaient un peu déçus. En gros, à chaque fois qu'il y a un bon épisode, il est pris avec un épisode d'avant qui est un peu moins bon, et du coup j'ai très peur que si le 6 essaye d'améliorer comme ils l'ont dit, on va révolutionner le genre, on va changer les choses, etc. Comme
on va tirer en avançant.
Non mais voilà, comme il avait fait pour le 4, en gros, que bah, peut-être que ça lui porte préjudice.
Que du coup, ils se vendent pas.
Et qu'ils se vendent moins, et que du coup, ils fassent « Ah bah, il faut refaire un truc classique !» Et que du coup, bah, les gens vont se réhabituer, ils vont faire « Oh bah tiens, l'autre, il était raté, mais du coup, on va y aller. » Et qu'en gros, ce soit 1 sur 2, et qu'à chaque fois, les gens... Parce que Resident Evil 4, c'est moins vendu que Resident Evil 5. Et quand même, j'ai envie de dire... monde de merde, parce que franchement il est quand même mille fois meilleur
en vente cumulée PlayStation 2 GameCube. Ouais. Il s'est moins vendu.
Bah ouais, enfin pas encore. Et tout oui. À fait, mais genre à quelques 200 000 exemplaires près, donc ça veut dire que d'ici la fin de l'année Resident Evil 5 l'aura dépassé amplement,
même donc, avec les versions Wii.
Bah
et
ouais
tout.
Bah ouais, parce qu'il avait vraiment pas très bien marché sur GameCube,
vraiment monde de merde, donc
c'est un peu l'idée. Voilà C'était donc nos coups de gueule. Et donc maintenant, on va attaquer la dernière partie de ce podcast, hein, mais conséquente, hein, puisqu'il y a pas mal d'informations importantes qui ont fait l'actu lors du mois de mai 2009. On va commencer avec la PS3 Slim and Light. On va aller très vite, car à l'E3, on devrait savoir beaucoup de choses. Mais c'est possible qu'elle ne soit pas montrée, hein, aux dernières nouvelles, puisque peut-être que Sony voudrait la garder un petit peu pour une autre conférence, peut-être à Cologne ou au Tokyo Game Show, peut-être. Mmh. Et puis surtout, ne pas se tirer une balle pendant l'été et faire en sorte que les gens disent « Oh bah attendez, je vais attendre la PS3 Slim and Light et j'en achète pas pendant 2 mois. » Donc on pourrait
C'est surtout qu'ils ont beaucoup de jeux là, quand même. Donc c'est les jeux qui vont vendre des machines. Et ils peuvent faire soit d'une pierre deux coups et sortir la machine très très vite à un bon prix avec les jeux qui vont avec, ce qui fait que les gens achèteront la machine nouvelle, soit attendre effectivement un peu et couler des stocks qui sont déjà présents. Quoi.
En tout cas, ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que la PS3 Slim and Light, vous l'aurez compris, c'est un redesign de la PlayStation 3, c'est un nouveau logo aussi, hein, adieu la typo Spider-Man, bienvenue une typo un peu plus arrondie, un peu plus précise.
Iron Man.
J'ai dit Iron Man ?
Non.
Ah oui,
c'est la nouvelle
Spider-Man.
Typo Iron Man.
Voilà. Mais c'est surtout que oui, des grosses fuites qui ont rendu a priori fou de colère Sony, puisque les photos ont été prises sur les chaînes de montage en Chine, ouais. Et qu'effectivement, elles sont vraies et qu'ils voulaient se la garder. Et tu parlais tout à l'heure pour Fallout 3 de genre on communique en disant non il y a rien qui est prévu, puis 2 jours après on vous dit le contraire. 2 jours avant que les photos sortent, les patrons de Sony Computer Entertainment criaient au grand Dieu que mais non rien n'est prévu sur un redesign de la console, hein. Donc clairement effectivement à ce niveau là on nous prend pour des gogos. Voilà. Hein, enfin. Allez, on enchaîne avec une autre information qui a fait l'actu au mois de mai. Il s'agit de GTA, la nouvelle extension de GTA qui se prénomme The Ballad of Gay Tony.
Waouh.
Ça, c'est un
Moi, j'ai juste envie de dire waouh.
C'est ça.
Mais c'est le titre le plus waouh de l'année, là, je crois qu'ils l'ont, ça y est. Mm. Mais
j'aime bien, moi.
Ça a l'air bien.
Ils ont des cojones.
Moi, je trouve ça cool. Ils partent dans une ambiance complètement différente, juste pour une extension.
J'ai pas dit que j'aimais pas, je trouve ça me surprend. Je dis qu'en termes de marketing, les mecs, ils en ont vraiment plus rien à foutre. Une fois qu'il y a marqué GTA, tu peux marquer ce que tu veux derrière.
Il y a que Rockstar qui peut se permettre de faire des trucs comme ça.
Ils portent bien leur nom.
Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que autant l'épisode Lost and Damned, donc exclusif Xbox 360, à celui-là, est aussi d'ailleurs, hein, pour l'instant, était nommé GTA 4 The Lost and Damned, et là c'est GTA The Ballad of Gay Tony, donc alors que pourtant ça se rapporte.
Il n'y a pas une histoire de standalone
Alors justement, il y aura aussi effectivement, mais ça c'est encore autre chose, il y aura une version qui sera vendue en disque, qui regroupera The Lost and Damned, donc les deux épisodes en fait complémentaires, les deux extensions, pour $40 aux États-Unis ou $49, je ne sais plus.
Non, c'est ça, $40 américain.
C'est ça, $40 voilà, US, et qui devrait donc arriver d'ici la fin de l'année aussi en Europe, mais en tout cas moi je trouve que voilà, c'est très bien parce que à titre
évidemment on ne sait rien, hein,
oui on sait pas grand chose alors on est en train de parler, mais c'est vrai que The Lost and Damned avec l'univers très biker, très sombre, très
toi tu préfères l'univers gay quoi.
C'est pas ce que j'ai
et
dit.
Et des discothèques.
Mais je préfère l'univers un peu festif qui me rappelle, alors on n'a pas vu grand chose, hein, mais l'univers de Vice City,
bien sûr,
que je trouvais vachement sympa quoi.
Mais c'est très Rockstar, de toute façon, ils ont déjà dit qu'ils alterneraient les trucs comme ça, comme ils ont fait avec la première génération, ce qui est très bien.
Angel.
Moi, ce que je trouve cool, justement, c'est que voilà, leur moteur graphique, il est au point, ils ont modélisé New York, et à partir de là, ils ont un vrai bac à sable, ils peuvent se permettre de faire un nouveau scénar de n'importe quoi, avec de nouveaux persos tout le temps, ouais, qui partent toujours dans des directions complètement différentes.
Et puis l'épisode de Stand Up était un bon épisode. Hein,
c'est un très bon épisode, oui.
Donc ça ne perd pas qualité, CAF.
Angel n'y a pas joué sur PC, hein, pour dire un truc pareil.
Oui, c'est sûr. Oui, bon, évidemment, version PC mise à part.
Mais sur Xbox 360, c'était de.
Les gens souffrent encore, il faut le savoir.
Ah oui, alors pour info, juste rapidement, l'épisode, pas l'épisode standalone, mais la version disque qui sera commercialisée, hormis donc sur Xbox Live, on pourra acheter la version. Quand on l'achète sur Xbox Live, il faut avoir le GTA original, alors que dans la version packagée avec les disques, pas la peine d'avoir le GTA. Donc des gens qui sont peut-être passés à côté GTA ou qui l'auraient revendu pourront, comme ça, s'essayer à The Lost and Damned et aussi The Ballad of Gay Tony. Voilà, on passe à un autre titre énorme, hein, au mois de mai. Vraiment, ça a été, il nous a scotché. On n'en a pas parlé dans les coups de cœur, mais c'était pour mieux nous le réserver maintenant. BioShock 2, énorme BioShock 2, ça a juste l'air génial. Et au mois de mai, on a donc appris la date de sortie américaine et européenne. Et pour une fois, et c'est assez rare pour
c'est
le souligner,
c'est à notre avantage.
C'est à notre avantage, Raon.
Et alors, aux États-Unis, il sortira le 3 novembre. Mm-hmm. Et chez nous, il sortira le 30 octobre. Alors bon, ok, on va pas en faire un plat, c'est que quelques jours, hein, mais bon, ça fait du bien.
Mais sur un jeu comme ça qu'on attend tellement, autant, c'est sûr que c'est 3 jours de plus, c'est bien.
J'ai toujours ça de prix, en 3 jours, on en fait des trucs.
On pourra spoiler l'Éric, hein, et ça, c'est bien.
En plus, il sort un vendredi, hein, comme quasiment tous les jeux en France. Hein. Donc, on aura un week-end plein pour jouer à Bioshock 2. Ça va être absolument génial. Et donc, on a découvert une nouvelle vidéo et l'ambiance a l'air toujours aussi excellente. Hein, Ran.
Ouais, mais oui, mais enfin, je veux.
Oui, pas dire grand-chose parce que spoiler, machin.
Voilà, ça me fait même ça m'emmerde. Tu vois, là, par exemple, je suis en train d'y jouer à Los Angeles au moment où je vous parle, et ça m'emmerde. Quoi. Ça me... Enfin, voilà, tu vois, j'ai pas envie de me spoiler avant la version finale. Tu comprends.
En tout cas, pour ceux qui seraient passés à côté, il y a les vidéos disponibles sur gameblog.fr. Et franchement, ça claque pour ceux qui ont apprécié le premier. Moi j'en ai des petits frissons encore, hein. Redécouvrir Rapture.
T'es sûr
comme
que c'est
ça.
Pas ceux de Gettoni?
Non.
Non.
Tu confonds à chaque fois.
Je te rappelle que ma copine est au-dessus.
Ah merde.
Ouais, redécouvrir comme ça Rapture sous cet autre regard, c'est assez sympathique. Allez, au mois de mai, on a eu aussi l'occasion de découvrir les nouvelles vidéos, cette fois-ci d'un jeu 100% français qui va sortir en exclusivité sur PlayStation 3. Il était normalement annoncé, hein. Pour la fin 2009, il a l'air d'avoir glissé à l'année 2010, un peu de retard pour Heavy Rain. Et qu'est-ce qu'on en a pensé à voir ces nouvelles vidéos ? Qui, pour la première fois, présentent vraiment le jeu. Hein, puisqu'avant, on le sait, hein, c'était présentation du titre.
La première vidéo avec le taxidermiste et la nana a été a priori juste un moyen
c'est sûr,
de...
C'est sûr.
Ouais, sauf que je suis pas certain que la nana revienne pas.
La nana peut-être, ouais. Mais la séquence, etc., et ce qui a été présenté, c'est pas le jeu à proprement parler, a priori. Angel, tu veux réagir sur la vidéo d'Heavy Rain?
Ouais, parce que donc là, on a vraiment vu du gameplay. Et alors, bon, pour resituer le
c'est
truc.
Du Shenmue.
Moi, j'ai beaucoup aimé Fahrenheit. Vraiment, j'ai beaucoup aimé.
Donc le deuxième jeu de David Cage.
Ouais.
Moi, j'ai jamais fini, mais il était bien.
Ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y avait plein de bonnes idées, je trouvais. Et, bref, il se jouait super bien. Et là, j'étais quand même un peu déçu par Heavy Rain. Là, pour le coup, c'est vraiment un Dragon Slayer déguisé, quoi.
Enfin, tu de vois, ce qu'on en a vu en vidéo, attention.
De ce qu'on en a vu, c'est clairement
je pense
ça.
Il n'y a pas du tout toute la séquence de.
Alors, après,
de
alors,
expliquons juste pour ceux qui ne l'auraient pas vu, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on découvre dans cette vidéo, justement.
On découvre donc un agent du FBI qui arrive dans ce qui ressemble à une casse, enfin ce qui est une casse automobile. Une casse, ouais. C'est une casse automobile. Et,
il enquête, il recherche une voiture.
Il recherche une Chevrolet. Ouais, c'est ça, une Chevrolet, et puis ça se finit en baston, blablabla.
Alors, un des rouages de gameplay, c'est que, donc, effectivement, tu disais, agent du FBI, il est très Men in Black style, hein, c'est-à-dire que dès qu'il met ses lunettes noires, il a visiblement, ça le change à vision, et il y a des apparitions comme ça,
en 3D,
d'indices en 3D qui apparaissent, c'est un peu Matrix aussi. Enfin,
ou les experts.
Et c'est pas très beau.
Non, enfin, non. Et alors moi je suis super déçu par l'apparition des boutons, donc au moment des Quick Time Event, qui est censé être contextuel, qui apparaît. Je trouve ça... franchement pas esthétique du tout, quoi. Ouais. C'est clairement c'est typiquement la fausse bonne idée.
Moi j'aime bien, moi, par contre, tu vois.
Ouais, moi non plus, ça me dérange pas plus que ça.
Moi j'aime bien le fait que t'es pas le bouton toujours au même endroit quand il apparaît, parce qu'au bout d'un moment les quick time events
sur la main qui va frapper,
voilà,
le...
c'est à dire que tu dois vraiment surveiller ce qui se passe à l'écran, ça te... parce que d'habitude les quick time events, bon, la première fois ça marche, mais après la deuxième fois tu sais où est-ce que ça va apparaître, tu regardes bien ce qui se passe et c'est plus facile. Je pense que ça va corser peut-être un petit peu, on verra après à l'utilisation.
D'autant qu'il a l'air d'avoir des demi-tours à faire, des arcs de cercle,
c'est
avec
fait
le
vraiment
joystick.
En fonction de ce qui doit se passer à l'écran, voilà.
Fighter 12.
Alors autre chose, parce que bon là effectivement c'est des quick time events, j'espère qu'il n'y aura pas que ça dans le jeu, parce qu'autrement
bonjour
Dragon Slayer. Mais sinon coup de pelle pour les voix, en tout cas les voix américaines qui sont super mauvaises. Alors ok, c'est un jeu français, donc on espère que les acteurs français pour le doublage français seront meilleurs, parce que là les doublages anglais c'est juste catastrophique.
On les a trouvés un peu mous, c'est vrai. Pas très...
Et en plus c'est quand même une aventure, c'est très scénarisé, donc si les doublages sont mauvais, c'est un coup à te flinguer carrément tout le jeu.
Bon, attention aussi, hein, on a découvert une vidéo qui dure à peu près 5 minutes, hein, c'est pour un jeu qui devrait normalement être assez conséquent, on attendra d'en voir un petit peu plus.
Néanmoins, même en termes de rendu.
Ouais, c'est ça. Techniquement, ça nous a pas.
Visuellement,
on n'est pas blasé techniquement,
moins,
mais là,
léché ça, que ce qu'ils avaient montré avant. Ouais.
Écoute, comme a dit un pote il m'a dit, c'est on dirait de la Xbox upscalée. Voilà, c'est odieux, mais il a pas totalement tort.
Enfin bon,
t'es embêté là.
Hein. Bah, c'est un peu rigide en tout cas.
Non, franchement, enfin par rapport à ce qu'ils nous avaient montré en démo technique, c'est assez décevant. Ouais.
Bon, voilà, hein, Heavy Rain, on aura l'occasion de revenir dessus, hein, puisqu'a priori il devrait sortir plutôt 2010. Hein. Il y a des choses qui sont très intéressantes néanmoins, hein, narrativement parlant. Et a priori, il y a quatre personnages, et ils peuvent mourir.
S'il y en a un qui meurt, ça te ferme
son arc narratif, et puis tu continues. Et puis bien sûr, si les quatre sont morts, l'aventure se finit. Mais ce sera assez intéressant de voir comment ils vont gérer justement comme ça cette trame narrative qui va mêler mêler quatre personnages dans une même histoire. Ça, ça peut être intéressant en tout cas. Autre information importante du mois de mai, Traz, le Xbox Fluid. Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors, ça a été confirmé par le Wall Street Journal, donc c'est quand même très important, et peut-être qu'on est en train d'en parler, et même d'y jouer en ce moment à l'E3, donc on va aller assez vite. Mais pour résumer, si peut-être que c'était qu'une grosse rumeur, c'était quoi, le Xbox Fluid ?
Bah, c'est censé être le iToy amélioré de la Xbox 360. Mm-hmm. Donc, c'est basé sur une caméra... Zcam de je ne sais plus quel constructeur, j'ai un peu oublié le nom. Là,
en fait, il y a plusieurs caméras, c'est un capteur avec trois caméras qui justement, comme ça, peut te repérer dans l'espace.
Voilà, et c'est censé, bah, en fait, c'est une sorte de Wii Motion Plus, mais version caméra, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire que ça prend en compte tes mouvements de manière très précise, donc espérons que ce soit vrai, je ne sais pas. Tu devrais pouvoir me le dire là maintenant, mais tu peux pas, donc c'est bizarre.
Bah, je peux te le dire, mais...
Si, potentiellement.
Le continuum espace-temps m'interdit de le faire.
Voilà, exactement. On risquerait de tout flinguer.
Exactement.
Donc, mais espérons que ce soit vrai. Quoi,
mais ce qui est intéressant, c'est qu'en tout cas, Microsoft voudrait, si c'est vrai, proposer une alternative à la Wiimote, c'est-à-dire qu'on n'a plus rien dans les mains et qu'on fait intégralement tout, ce qui se rappelle un peu l'iToy, mais de manière beaucoup plus développée. Et la rumeur voulait... ou voudrait, on ne sait pas, que l'un des premiers jeux à utiliser, ce serait le projet Dimitri, le jeu sur lequel est en train de travailler Peter Molineux, puisque cette caméra pourrait aussi normalement être suffisamment fine pour regarder, scanner un peu ton visage et voir tes réactions faciales. Donc écoutez, on en sait plus actuellement, vous aussi, vous en savez en fait plus, vous qui nous écoutez, que nous à ce moment en train de parler. C'est ça qui est un peu paradoxal, horrible et...
Et
voilà,
temps,
hein, bon, mais vous comprenez, hein, on a été obligé d'enregistrer avant. Et voilà. Bon, enfin, allez, on enchaîne avec une autre information importante. Tony Hawk Ride, un nouveau Tony Hawk. Alors bon, bah ça, voilà, un nouveau Tony Hawk, hein, série un petit peu en perte de vitesse. Et puis pour essayer de relancer un petit peu le buzz autour du jeu, la sortie d'un accessoire, ça marche avec carton, même avec Nintendo à chaque fois qu'ils sortent un petit volant, etc., avec des Mario Kart. Et ben là, ils sortent une planche de skate à 120€.
C'est ça, c'est.
De quoi s'agit-il?
En tout cas, 120$.
Traz. Oui, 120$.
Ouais. 120$. Bah, en tout cas, c'est le prix estimé aux États-Unis pour cette fameuse planche. Je trouve ça, mais. Je sais pas, c'est super risible, quoi. Ça aurait pu être un coup de gueule de ce mois-ci, parce que bon, voilà, qui va acheter un truc. Enfin, un jeu avec un accessoire à 120$, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi.
Ah, bah, Guitar Hero, Rock Band, hein, quand même.
Ouais, mais c'est quand même autre chose, quoi. C'est,
en plus, c'est moins cher. Là, c'est juste un jeu de skate. Alors, Activision, on sait, parce que dans les interviews et machin, ils ont dit qu'ils veulent la réutiliser pour à peu près tous les jeux, tous les jeux de sport extrême et compagnie. Mais même, enfin, ça fait une facture super salée. Surtout pour un jeu qui est censé. Donc, révolutionner Tony Hawk et relancer la franchise. Franchement, je vois mal les gens dire ah chouette, je vais rejoindre un Tony Hawk et je vais claquer 120$ là-dessus.
Et puis c'est surtout qu'il y a déjà eu des essais de fait avec des skates pour jouer. On en avait testé quelques-uns et c'était une catastrophe.
Non mais là par contre le truc est super au point. Il y a des vidéos où tu vois justement Tony Hawk faire sa super démonstration. Il y a des accéléromètres un peu partout, donc le truc marche.
Putain, je suis étonné. Angel est en train de croire à des vidéos. Tu non, sais non. Qu'on peut faire tout, croire tout et n'importe quoi avec une vidéo, c'est pas parce qu'il te montre en faisant hey, I can do a holy, et que ça
marche. Non, mais en fait, en plus, le truc, c'est pas non plus super compliqué, quoi. C'est une sorte de Wiimote améliorée. Ouais. Voilà. En plus, d'ailleurs, il montre le prototype, c'est simple. Hein. Le prototype, c'est très simple. C'était une planche de skate sur laquelle ils avaient foutu une Wiimote désossée qu'ils avaient réadaptée et tout ça. C'était ça le prototype de départ, quoi.
Putain, mais que ferait-il sans Nintendo, quoi.
Et donc, le truc, ils ont amélioré le truc pour voir pour le résultat final qui marche. Mais en attendant, franchement. Le truc
avec Rock Band et donc Guitar Hero, oui, le dernier, c'est que c'est une expérience sociale. Ça concerne plusieurs gens. C'est-à-dire que ton investissement, c'est pas que pour toi, gueule. C'est pour plein pour tes potes, pour tout ça. C'est pas pareil.
C'est des instruments de musique, quoi. Tu peux jouer à l'intérieur, tu peux jouer chez toi, y a pas de souci. Skateboard, tu joues pas chez toi, quoi. Enfin, je sais pas. À part Jean-Anthony, dans les couloirs de Joypad à l'époque, mais
oui,
bah, tu fais pas du skateboard dans la maison. Enfin, je trouve ça ridicule. Oui.
Ça, je sais pas si ça va changer grand chose le fait que tu puisses pas.
Bah, c'est pas grisant, quoi. Enfin, je sais pas, tu restes immobile sur une planche à
rouler. En tout cas, il est certain que si en Europe le prix est confirmé, et généralement, malheureusement, la parité de dollar-euro est de rigueur, si c'est 120€, ça c'est quand même.
À moins que le jeu défonce, quoi.
Cela dit, c'est pas encore officiel. Hein. C'est GameStop qui l'a foutu dans son catalogue, qui l'a listé à 120€. Il y a encore rien d'officiel.
Peut-être que pour ce prix-là, ils te fileront une guitare avec.
Écoutez. On verra, on va suivre ça d'assez près. Autre information du mois de mai, la prochaine Lara Croft qui devrait rajeunir, en tout cas au cinéma. Alors bon, on l'intègre à l'intérieur, puisque donc le producteur Dan Lin du prochain film Lara Croft, car oui, il y en aura un deuxième, un troisième, pardon, parce qu'après les deux opus avec Angelina Jolie, qui sont des étrons cosmiques, néanmoins, ont pas trop mal marché au box-office. Et du coup, bah, troisième épisode, sauf que bah, pas dans Angelina Jolie, a priori, puisque Dan Lin, hein, producteur du prochain Tomb Raider, mais aussi déjà producteur du nouveau Terminator, celui qui vient de sortir, mais Terminator Renaissance, et qui donc opère un reboot dans la saga des Terminators, comme on dit aux États-Unis. Donc on repart à la base, on recommence tout, genre nouveau, enfin pas nouvel univers, mais on rajeunit la série, nouveaux personnages, etc. Ben, ils veulent faire la même chose avec Lara Croft, et du coup, plus d'Angelina Jolie, on repartirait vraiment la jeunesse de Lara quand elle est toute jeune. Et alors, attention, ouais, mesdames et messieurs, je vais vous faire bondir.
C'est la fille d'Angelina Jolie.
Megan Fox serait sur les rangs pour incarner la nouvelle Lara Croft.
Et là, je le regarde. Et là, je regarde Lara Croft, il n'y a pas de problème.
Très bien, voilà.
Mais il faut des implants, là, c'est pas possible.
C'est pas grave, tu sais que les images de synthèse, tu fais des trucs extraordinaires maintenant.
C'est vrai. Alors, et Itagaki cherche du taf. Non, en fait, il a vraiment annoncé un jeu, donc on s'en fout. Mais...
Non, mais ce qui est intéressant surtout, c'est que Dan Lin, donc, avec son blog de producteur hollywoodien, lui, lorsqu'il a été interviewé concernant le nouveau Tomb Raider, disait que justement, il voulait partir un petit peu de ce qui est la voie qu'est en train de prendre les jeux vidéo. Il dit, de Tomb Raider en tout cas, il dit maintenant, les Tomb Raider en jeux vidéo, c'est devenu de plus en plus action, de plus en plus frénétique, on tire un peu sur tout. Et nous, le film, on a envie de le faire de manière un peu plus posée. Plus sur l'ambiance, l'univers, et donc finalement revient un peu à la jeunesse du Tomb Raider initial.
Indiana Jones, quoi.
C'est un peu ça, clairement. Bah, ça peut être pas mal, on sait jamais. Indiana Jones avec une femme, si c'est bien fait.
Avec Megan Fox, moi je te dis, j'y vais, c'est tout, quoi.
Surtout c'est la dernière fois, c'est ça?
Ouais.
On ne veut pas le savoir.
Oh, elle est lourde.
Ouais, c'est un peu l'idée. Allez, on enchaîne avec une nouvelle news qui concerne Final Fantasy Versus 13. Oh, qu'est-ce qui se passe?
Il y a Megan Fox dedans?
Il n'y a pas Megan Fox, bon, mais il y a Tetsuya Nomura. Vous le savez, hein, c'est le designer des Final Fantasy depuis le 7. Hein. Le style un peu plus manga qu'il a donné, même beaucoup plus manga, ouais. à la série. Alors, c'est assez amusant, Final Fantasy Versus 13. On l'attend, hein, un petit peu à l'image de Versus de Final Fantasy XIII tout court. Hein. Les jeux devraient arriver finalement en 2010, hein, oh, plutôt fin d'année pour nous, hein, donc dans un an à peu près.
En même temps qu'on a le temps d'attendre. 5.
On a le temps. Mais alors, le truc, c'est qu'on apprend, puisque le président de Square Enix a déclaré quand même que Square était trop lent et qu'il devait faire les jeux plus rapidement. Et
c'était leur principal problème.
C'était leur principal problème. Voilà. Alors déjà, je trouve ça assez fort de la part d'un japonais, d'un président de boîte, de finalement pointer du doigt leur carence. Et quand même, réponse de Tetsuya Nomura, allez, 2-3 jours après, qui parle de Final Fantasy Versus 13, il dit « Oui, on est un peu en retard parce qu'on a des problèmes avec des vêtements. » Parce qu'on essaye de reproduire la texture du cuir à la perfection. Tous les vêtements en fait, dans le jeu sont designés par Roen, un designer japonais.
Oui, c'est-à-dire que c'est des trucs sous licence. Hein,
exactement. Et du coup, ils veulent que ce soit super parfait, machin. Et apparemment, ça faisait beaucoup rire. Il dit, et même une fois, on a fait une paire de chaussures qui étaient dépareillées. On a dû tout recommencer. Eh ben voilà, si c'est pour ça qu'on attend le jeu.
Ah ouais, Pierre. Mais sinon, niveau gameplay, tout ça, non, rien.
Ah bah on sait rien.
Ah ouais, d'accord.
On sait à peu près rien pour l'instant. Mais les fringues, elles vont être vachement bien.
Ah bah putain.
C'est peut-être. Non, j'allais dire une connerie.
Non, ça a toujours été un défilé de mode. De toute façon, Final Fantasy, alors je sais pas pourquoi.
Mais ça ne peut pas se limiter à ça, hein, quand même. Je tiens à le souligner.
Non, mais là, c'est n'importe quoi.
Peut-être,
là.
Mais les Final Fantasy restent quand même une grande série.
Mais cela dit, chez Square, il n'y a pas qu'avec les Final Fantasy. Enfin, tu prends les FF Online aussi. Ils sont censés annoncer un nouveau MMO depuis 3 ans.
Tant qu'ils sont en retard sur l'annonce, ça va, tu vois. Mais quand c'est annoncé et que là ils prennent du retard, ça devient
merde. Mais en interne, ça a l'air d'être un bordel, faut le dire. Parce que
ils sont trop occupés là, ils rachètent Eidos, ils peuvent pas tout faire.
Bah non, mais t'imagines, ils ont quand même un middleware de la mort, ils ont plein de trucs qui sont censés être super au point pour faire des jeux plus rapidement. Et là, ça fait quand même 5 jeux de suite qui sortent, qui l'utilisent pas, qui utilisent le Unreal Engine,
oui,
qui utilisent
des trucs pas très
et pour pas un résultat, voilà.
Voilà, et pour des résultats qu'on connaît. Donc je sais pas. Ouais, en interne, à mon avis, il faut qu'ils remettent tout à plat.
Mais je vais juste te reprendre, Caf. Toi qui si souvent prônes la qualité de mon accent anglais, on ne dit pas Unreal Engine, mais Unreal Engine.
Oh putain!
Et donc c'est assez proche de Engine, et donc assez proche de Grippe. Et la Grippe a été l'une des stars aussi incontournables du mois de mai 2009, hein, dans l'actualité mondiale, bien sûr, mais aussi ludonumérique, puisque bah ouais, vous le savez, hein, l'E3, bah, des grands absents de marque, puisque chez Capcom, chez Koei, chez Square Enix et chez Konami, eh bien les Japonais, certains des plus importants d'ailleurs, n'ont pas pu faire le voyage à l'E3, tout simplement pourquoi ? Eh bien, car l'un des plus grands foyers de grippe A au monde se trouve à Osaka, et du coup le gouvernement japonais Ils vont apprécier. à demander à ses ressortissants de préférer ne pas faire le voyage. Voilà.
Contaminer la planète entière.
Exactement. Et donc, c'est en train de prendre des proportions, cette histoire. Alors qu'on le sait quand même, chiffre à l'appui, que la grippe normale fait plus de victimes chaque année que la grippe A actuelle.
Parce que là, c'est très largement. Hein.
C'est le plus gros foyer et tout. Ils sont 12, quoi, tu vois. J'exagère.
Mais là, où ils s'inquiètent, c'est que c'est un foyer
qui est très
localisé.
Voilà, qui est très localisé, qui n'a pas été contaminé par des trucs extérieurs. Donc là, ils ne comprennent pas trop.
D'accord.
Et puis, je pense que c'est la fin du monde, moi, perso, mais bon, voilà, c'est tout.
Et puis, ça se trouve, on est en train
Ça fait 10 ans que tu dis que c'est la fin.
On est en train de se marrer, mais Raon, tu le sais pas encore.
Mais tu l'as déjà.
On l'a peut-être déjà. C'est peut-être notre dernier podcast, d'ailleurs, parce qu'à l'E3, là, ça va. Il y a des miasmes et tout, il va en avoir. Des échanges de.
Milliards de babes.
De fluides.
De fluides.
C'est bizarre. Tu as dit que ta copine était au-dessus, c'est ça? Tu peux pas dire ça.
Alors, dernière news du mois de mai. Wouhou! Gears of War 3, qu'est-ce qui se passe? Gears of War, le FPS, l'un des plus vendus, les plus populaires, et celui qui a fait aussi la force de la Xbox 360.
Attention, c'est un TPS, pas un FPS. Attention,
c'est
attention.
Vrai, c'est vrai, c'est vu à la troisième personne.
Exact. Et d'ailleurs, tant que je suis à trop honorable, Osaka, et pas Osaka.
Oh, le lourd. Tu sais ce que je dis, moi, je t'emmerde.
je t'emmerde.
Voilà, ça c'est fait. Gears of War 3, des premières informations. Hein. Alors, il s'agirait d'un remake, il s'agirait d'un jeu qui se passe en même temps que le 2, avec des scènes intermédiaires, on ne sait pas trop, peut-être nous savons encore déjà.
Oui.
C'est bizarre ce podcast quand même.
C'est très 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 bizarre.
La tonne de vannes qu'on va prendre dans les forums.
Oui, c'est vrai. Mais en tout cas, ce qui est sûr, du coup, forcément, c'est que Gears of War 3 est une réalité, est en train d'avancer. Et on le sait, on le rappelle, que Cliff Bleszinski avait annoncé quand même qu'il travaillait aussi sur un survival horror. Et ça, c'est intéressant. Ça veut dire qu'en parallèle de ce Gears of War 3, qui pourrait être une sorte d'un peu de spin-off, donc un jeu un peu plus fait un peu plus rapidement, il travaillerait sur un survival, peut-être à la Dead Space qui aurait donné l'idée, je ne sais pas.
Oh, c'est sans doute ça. Hein.
C'est Gears of War, sauf que tu n'as pas de flingue.
Ah.
Et tu cours.
Tu travailles en moins, tu pas besoin de modéliser les flingues, on gagne du temps.
Sois pas fou quand même.
Non, les meilleurs survival, on ne tire pas.
Tu tires jamais en courant, c'est possible.
Je m'excuse. Messieurs, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Parce que si vous voulez vous exprimer, c'est maintenant ou jamais, comme on dit dans les mariages.
Oui, moi je voulais juste rajouter un petit truc.
C'est la fin
du monde. Que la Xbox 360 a passé la barre des 30 millions de ventes dans le world, selon les chiffres NPD.
Donc, est l'organe qui référence vraiment de manière très chiffrée, très claire aux États-Unis les ventes de consoles.
Tout à fait. Et donc 20 millions de comptes Xbox Live aussi.
Ça, c'est assez intéressant parce que mettons-le en parallèle avec les autres chiffres de vente des principaux concurrents. Donc 30 millions de Xbox 360, la PS2.
La PS3, tu veux dire. Oui. 22 millions d'exemplaires.
Voilà, donc 8 millions de moins. Voilà. Et la Wii.
Et la Wii, 50 millions.
Voilà, donc
toujours dans la stratosphère.
À fin mai.
Exactement. Donc le classement, c'est Wii 50 millions, Xbox 360 30 millions et PS3 22 millions. Ça va se battre à la Noël.
Ça fait 100 millions de consoles de salon dans le monde.
C'est ça. C'est un joli chiffre. Effectivement, tout à fait.
Il en reste quand même encore un paquet à vendre. Hein.
On rappelle, mais c'est assez intéressant parce que 100 millions de consoles next-gen, on va dire, en incluant la Wii, c'est ce qui est un peu moins que ce qu'a fait toute seule la PS2, hein, quand même. Hein. Mais à la fois, normalement, on est censé n'être pas encore arrivé à la fin de ce cycle de nouvelles consoles qui devraient prendre 2011-2012, c'est ça, hein, c'est ce qui est en train d'émerger en date.
Bah, c'est ce dont tout le monde parle, effectivement, pour commencer à entendre parler de la prochaine génération. Mais on attend toujours aussi
Apple,
oui, c'est vrai. Apple peut changer les choses. Et puis, aide-moi, Caf, le
OnLive.
Oui, le OnLive, voilà.
D'accord.
Ça.
Je m'appelle Caf.
Oui, merci Caf. Putain, t'as maigri.
Ouais, mais je fais du loot à gogo.
Ah ouais.
Je vous emmerde tous les deux.
Ok, d'accord. Bah, tu vois. Et on vous emmerde tous.
Eh bah, ben écoute, on va se casser à Los Angeles. On y retourne tous en avion.
On va les téléporter vite fait là.
donc oui, ça la donne aura peut-être changé de manière très importante d'ici à la prochaine génération de consoles, de salons, ou pas.
Et bah c'est formidable, ça laisse une ouverture à ce podcast qui était donc un podcast récapitulation du mois de mai 2009, vous l'avez vu, qui était très vivant avant ce...
C'était notre premier rétro-podcast en fait, le podcast
c'est ça.
Qui regarde vers l'arrière.
C'est un peu... chaque mois on le fait, Raon, je te rappelle. Sauf que
c'est vrai, tu as raison.
Sauf que d'habitude,
mais je t'emmerde aussi
Sauf que d'habitude, on est physiquement là dans les vrais temps en fait, sauf que là, vous l'aurez compris, on a été obligé de l'enregistrer en avance, juste quelques heures avant notre départ à Los Angeles. Normalement, vous êtes en train, si tout se passe bien, de vivre l'E3 en vidéo. Waouh, c'est fou. Et ça, c'est une belle nouveauté aussi sur Gameblog.
Oui.
Et si vous ne le voyez pas, c'est que ça se passe super mal pour nous.
C'est un gros problème, alors là.
Quand on reviendrait peut-être jamais. Voilà. Alors, Angel,
j'étais en train de me dire que
l'avion va peut-être s'écraser et qu'à l'heure actuelle,
alors
on,
dans
sera,
ces cas-là,
on sera genre en super deuil.
Quittez boîte.
Le jeu vidéo a déjà gagné, mais ne le sait pas encore. Mais Julien, c'est les rares sont déjà morts, mais ne le savent pas encore.
Bah, c'est le moment de faire votre testament, là, allez-y.
Bon, vous nous aimez bien quand même. On,
ouais,
a passé, on aura passé au moins 103 bons podcasts. C'est déjà ça.
C'est pas mal, on a passé la barre des 100.
Voilà.
Maintenant, putain, c'est bon, vous pouvez mourir.
Maintenant, vous pouvez crever.
Arrêtez, on va le porter le chat noir. Bon, allez, on vous donne rendez-vous forcément la semaine prochaine, mercredi prochain. Enfin, je dis forcément si on est vivant. Vous l'aurez compris, ce sera un gros podcast qui fera le bilan de l'E3 2009. Cette fois, on aura tout vu, puis on sera là, remis bien dans les bons timings.
Avec des impressions et tout.
Des vraies impressions sur les jeux auxquels on aura pu vraiment mettre la main sur la manette. Donc, vraiment, un bon feedback avec probablement aussi peut-être quelques invités qui nous donneront aussi leur regard sur cette E3 2009 qui était. Et normalement, le 3 de la résurrection, en sera-t-il le cas? Eh bien, vous le saurez en ce moment même, dans les jours à venir et mercredi prochain. Allez, on vous fait des bisous. On vous dit surtout, portez-vous bien. Et n'oubliez pas, jouez bien. Ciao.
Bye.
À mercredi prochain.